Le Scudetto pour l'Inter, la deuxième place pour le Napoli, mais surtout les qualifs en Ligue des Champions de Côme et de la Roma aux dépens du Milan et de la Juve. Des destins croisés aux conséquences sportives et financières opposées, l'After Italy tire le bilan de la saison en Serie A.
RMC After Italy,
Jérôme Sillon.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'After Italy, à écouter, à regarder sur toutes les plateformes et notamment sur la nouvelle chaîne After Télé. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Chaque semaine, on part à la découverte des clubs, des joueurs, des histoires du football italien avec notre drôle de dame, Daniele Manuccia. Ciao Daniele.
Ciao Jérôme, ciao à tout le monde.
Et avec Loïc Moreau, salut Lolo.
Salut Jérôme, salut tout le monde.
T'as chaud non Daniele hein? On voit que tu transpires un petit peu, il fait chaud à Rome aussi hein?
Oui, et surtout, on a vu dans les cadrages plus grands, on a vu mon ventilateur derrière. Je ne savais pas qu'il allait rentrer.
Bon, Daniele, on va évidemment parler donc de cette qualification pour la Ligue des Champions de Côme et de Rome, et puis du Milan et de la Juve qui réagissent de manière totalement différente à la crise sportive qu'ils traversent. On commence donc par la Roma, ton club de cœur, Daniele, parce que malgré les tensions en interne avec Claudio Ranieri, le conseiller des propriétaires, eh bien, la Roma a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions. Promesse tenue, Lolo. Promesse qui avait été formulée par l'entraîneur.
Ouais, Gianpiero Gasperini, il est comme ça. Hein. Quand il promet quelque chose, en général, il le tient. Et c'est vrai que c'est un peu le spécialiste. Hein. On sait qu'il avait passé 10 ans à la tête de l'Atalanta, dont il a fait vraiment un des clubs phares en Italie, avec des qualifications régulière pour la Champions League, 5 qualifications en 10 ans, plus les 2 qualifications en C3. Mais pour la Roma, c'était pas la C3 qui voulait, le board avait été très clair, c'était cette qualification, ce retour en Champions League. Gianpiero Gasperini, malgré, tu l'as dit, les dissensions à la fois avec Claudio Ranieri, mais aussi avec Frédéric Massara, le directeur sportif, est parvenu à arracher cette place synonyme de Champions League. Donc effectivement, il a encore tenu sa parole.
Daniel, est-ce que tu dirais que c'est même quasiment un exploit réalisé cette saison par la Roma de se qualifier dans le top 4 ?
Oui, c'est totalement, c'est objectivement un exploit. Personne, à part Gasperini, parlait des Champions League au début de la saison. Même la société, il a dit, Gasperini, le président Friedkin, il ne me demande pas d'arriver dans les premières 4. C'est moi qui pense, il a dit Gasperini. Il a même dit, moi je pense qu'est à ça, je pense qu'est à la Champions League. Il a dit ça quand la Roma, elle était entre première, deuxième, troisième place au début de la saison, parce que là, on ne s'en souvient pas, mais à la 12e journée de ce championnat, la Roma, elle était première en classement. Après, on savait que ça n'allait pas tenir, mais Gasperini, à ce moment-là, il a dit, on n'est pas obligé, pas forcément, c'est difficile, on va la jouer jusqu'à la fin, mais on a le potentiel. Quand la Roma, elle a perdu des points, notamment avec les 3-3 à domicile contre la Juventus. Vous vous rappelez le but de Gatti à la 93e minute. Après, la Roma, elle a perdu contre Com, elle a perdu contre 5-2 contre l'Inter. Même après les 5-2 contre l'Inter, Gasperini, il a dit, ces groupes-là, ils peuvent aller en Champions League. Moi, j'y crois, ça va se jouer à la dernière journée. Et bah, c'est ce qui s'est passé, effectivement.
D'un point de vue économique, quelles sont les conséquences, Lolo, pour la Roma avec cette qualification? Évidemment, c'est providentiel.
Ouais, c'est très positif. Alors, il y a deux choses différentes. C'est vrai que la Roma, pour se conformer au fair play financier, doit trouver 60 millions d'euros d'ici la fin juin. Donc ça, on a parlé plusieurs fois dans l'After Italy. De toute façon, il faudrait vendre un, voire deux joueurs. Ça dépend comment il sera valorisé. Mais un joueur à forte valeur marchande pour entrer dans les clous. Ça, c'est une première chose. En revanche, après le mois de juin, dès le mois de juillet, il y a une nouvelle saison qui commence et pour celle-là, la qualif en Champions a apporté 60 millions d'euros là aussi à la Roma. La troisième place, 11,5 millions d'euros en plus. Donc c'est effectivement une aubaine pour la Roma qui va pouvoir, à partir du mois de juillet, repartir sur un cycle positif et qui est très ambitieuse d'ailleurs au niveau du prochain mercato estival.
Alors avant de parler des possibles recrues, qui est sur le départ du coup? Quelle est la star de l'effectif qui va partir selon toi, Daniele?
Alors, il y a deux noms. L'un de ceux, c'est Svilar. C'est une possibilité. C'est un des meilleurs gardiens de la saison. Peut-être lui ou Maignan, mais c'est les deux meilleurs gardiens de la saison.
C'est lui qui a été élu par la Liga.
Parce que Maignan, à la fin, le Milan, il n'a pas. Comment dire, c'était pas trop fancy, trop cool de donner des prix au Milan. Mais après, il y a Manu Koné, que vous connaissez très bien, qui va faire la Coupe du Monde avec. La France, qui a déjà déclaré son amour à Roma, la ville, mais il a déclaré l'amour à la Roma un peu comme quelqu'un qui est en train de la quitter. Donc après ça, c'est pas officiel, il y a pas de, pour le moment, il y a pas de rumeurs, sauf les rumeurs de l'Inter qui ça dure depuis la saison dernière. Mais on peut lire entre les mots de Manu Koné quelque chose comme moi je suis, c'était très beau, c'était magnifique. Et bon, bonne chance à tout le monde et on se voit plus tard. Je pense que effectivement, si l'Inter elle pose sur les plats les millions que la Roma elle demande, que je pense ils vont être plutôt 45 plutôt que 60. Je pense que Manu Koné pourrait partir et que c'est aussi un peu un sacrifice à faire pour une équipe que, c'est vrai, elle a obtenu un énorme résultat, c'est vrai, elle a de l'argent pour bâtir, mais il faut bâtir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup à changer dans la Roma.
Alors, Manu Koné, on verra, il y a également la Première Ligue, on imagine, hein, qui sera sur les rangs pour accueillir l'international français. Dans le sens des arrivées, Daniele, on a listé plusieurs joueurs qui peuvent donc signer à la Roma cet été. On va vous les montrer en images pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube. On parle de Somerville, de Scamacca, de Zirkzee, de Nusa. Mais le nom qui revient avec beaucoup d'insistance ces dernières heures, c'est celui du Marseillais Mason Greenwood. À quel point tu penses que ce transfert peut se réaliser? Et est-ce que tu penses que Greenwood et Gasperini compatible?
C'est vraiment difficile à dire le réalisme de ces voix-là parce que la Roma elle n'a pas de directeur sportif pour le moment. C'est-à-dire il y a toujours Massara, mais avec Gasperini ça ne marche pas. On parle de directeur sportif de l'Atalanta qui va peut-être signer à la Roma, mais on parle de lui aussi pour les Milan. Donc en Italie, c'est un peu le chaos en ce moment pour ceux qui regardent les entraîneurs, les directeurs sportifs. Scamacca, c'est un homme aussi qu'on fait beaucoup. Et je pense que ça veut dire que les joueurs, ils voudraient ça. Oh, l'agent du joueur. Parce que si les journaux, les journalistes, ils parlent de ça, il y a quelqu'un qui leur dit, leur demande. Greenwood, je pense que ça marcherait très, 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 très bien avec les jeux de Gasperini. C'est un lookman plus fort. Voilà, je vais dire ça. Différent, avec des qualités différentes. Mais ça me rappelle, c'est un joueur un peu au niveau de Papu Gomez, Ilicic, des joueurs qu'avec Gasperini, ils ont explosé. Après, sur Greenwood, il y a aussi la question éthique. Il faut voir comment le public de Rome pourrait l'accueillir. Mais a priori, vu qu'effectivement, on a passé des sales moments, je pense qu'un joueur comme Greenwood ferait venir les scintilles aux yeux.
Les étoiles dans les yeux, effectivement, des supporters romains. Par contre, il va falloir qu'il apprenne à bosser, hein, parce qu'avec Gasperini, ça ne va pas être de la rigolade.
Mais donc, tu vois, juste pour finir sur Gasperini, et ce que disait Daniele, c'est quand même, là, il gagne sur toute la ligne. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'il a eu la peau, entre guillemets, de Claudio Ranieri, qui était pourtant, qui est vraiment très populaire auprès des romanisti, pendant la saison. Là, il a eu la tête de Frédéric Massara, et potentiellement, il va ramener Tony D'Amico, qui est son ancien DS à l'Atalanta, avec lequel il a bossé ces dernières années. Donc là, en fait, il restructurerait la Roma un peu à son image. Et là, ce serait vraiment, il aurait vraiment réussi sur toute la ligne.
Alors, l'incroyable surprise de la saison en Serie A, c'est bien sûr la première qualification européenne de l'histoire pour le club de Côme. 2 ans seulement après sa promotion en Serie A, ce sera même la Ligue des Champions. Donc, c'est quand même assez incroyable ce qu'a réalisé l'équipe de Cesc Fabregas avec une identité de jeu très affirmée, Lolo.
Ouais, c'est ça, en fait, qui est peut-être le plus plaisant dans la belle histoire de Côme, sur laquelle on va revenir. Mais c'est vrai que Fabregas, on l'a évoqué aussi dans l'After Italy plusieurs fois cette saison, il ne s'est pas fait que des copains en Italie. Il est un peu mal vu par certains de ses pairs, mais il a eu cette capacité à vraiment transmettre son message et à imprimer sa patte. On le voit, Côme cette saison, c'est l'équipe qui a la meilleure possession, c'est l'équipe qui presse le plus, c'est l'équipe qui a la meilleure défense notamment, et qui est aussi l'une des meilleures attaques. Donc c'est vraiment une équipe qui a un style de jeu qui a embêté beaucoup de gros. Daniel le disait, notamment la Roma. Donc c'est vraiment une équipe qui est plaisante à jouer. C'est sans doute, à mon sens, le plus beau jeu de Serie A avec l'Inter. Et c'est vrai qu'il y a une identité forte qui ressort du collectif entraîné par l'Espagnol.
Daniel, si on parle d'exploit pour la qualification en Champions League de la Roma, quel terme on doit utiliser pour Côme? C'est un miracle?
Miracle, oui. Oui, sauf que s'il y a de la programmation comme il y a chez Como, on ne peut pas parler de miracle. Il faut dire pour Roma et pour Como il a fallu avoir la complicité de Milan, Juventus et d'autres équipes qui ont perdu beaucoup de points, qui ont donné des points à Como, à la Roma, pour faire cet exploit-là. Parce que Como, il y a eu un moment où, bien sûr, ils ont commencé à réfléchir, on va peut-être jouer une Coupe européenne l'année prochaine. Ce n'était pas sûr, ce n'était pas peut-être dans leur programme. Mais après la Champions League, je pense que oui, ils avaient fait les t-shirts, comme vous voyez, ils étaient prêts à célébrer aussi la Champions League, même s'il y a dû avoir le croisement des résultats compliqués, parce qu'il a fallu que le Milan, il perd à domicile contre Cagliari. Si Milan, ils avaient fait match nul, comment ils n'auraient pas allé en Champions League? Parce que la Juventus n'avait pas gagné contre le Turin, le derby. Donc, c'était difficile, c'était miraculeux, effectivement. Mais après, il y a une programmation derrière. Il y a les jeux, on en a parlé d'équipe espagnole en Serie A. Il y a l'idée de viser sur des joueurs que maintenant tout le monde dit oui, mais bon, ils ont dépensé 150 millions, 100 millions, mais ils ont payé leurs joueurs moins de 30 millions, tous. Même Baturina, ils l'ont payé, je pense, une vingtaine de millions. Jesus Rodriguez, 24 millions, je pense, un truc comme ça. Diao, Maxi Perone, qui c'était un des meilleurs milieux de la saison, 14 millions. D'Acuña, Lucas D'Acuña, qui moi, bon, là c'est trop tard, mais j'aurais bien aimé le voir à la Coupe du Monde. Il était là aussi quand Como, il était en deuxième division. Donc il y a l'idée, il y a la programmation sur une longue période. Là c'est un problème parce qu'ils doivent changer, ils ont besoin de joueurs italiens, au moins 4 joueurs grandis dans n'importe quelle équipe italienne et 4 grandis à Como. Et pour le moment, ils n'ont un joueur que Fabregas l'a amené sur les banques, c'est Cassano. Et Goldaniga, qui est un défenseur qu'on peut garder si tous les restes des défenseurs se blessent. Mais après, il va falloir bâtir le stade, sinon il faut aller jouer à Reggio Emilia. Donc on voit que même leur programmation, elle n'est pas arrivée jusqu'à la Champions League, jusqu'aux Coupes européennes. Donc ils ont été surpris. C'est une belle surprise. Voilà, plutôt qu'un miracle, on peut parler d'une belle surprise.
Ouais, effectivement, ça va poser quelques soucis de logistique. En tout cas, c'est une équipe qui, effectivement, avait investi sur le marché des transferts, mais astucieusement.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, la belle histoire, elle est aussi belle parce qu'il y a un propriétaire, il y a des propriétaires indonésiens derrière et qui ont vraiment, effectivement, investi massivement. Si on regarde depuis la remontée de Com en Serie A, dans les 5 grands championnats européens, il y a que 5 clubs, 5 membres du Big Six anglais, donc on met Chelsea de côté, qui ont une balance des transferts plus négative que celle de Com. Donc, si on fait la balance entre les achats et les dépenses, c'est moins 228 millions d'euros. Ça, effectivement, tout le monde n'est pas capable de se permettre ces investissements. En revanche, et Daniele le disait, c'est beaucoup d'argent dépensé, mais c'est de l'argent bien dépensé, avec des profils qui collent au jeu de Fabregas et surtout qui ont été valorisés. On parlait de Baturina. Baturina, maintenant, c'est pas 20 millions qui seraient vendus à un club tierce. Et de toute façon, Com n'a pas besoin de vendre ces joueurs-là. Donc, il y a vraiment un projet qui a été mis en place aussi par les dirigeants de Com, un projet qui tient la route et qui est à tous les étages, en fait, ça travaille bien. Et du coup, on a ce résultat qui est positif, qui est effectivement peut-être inespéré par rapport aux ambitions de Com. Je pense que les ambitions de cette saison, c'était une compétition européenne, mais pas la Champions. Bon, là, ils sont déjà en avance sur leur temps de passage et on a hâte de voir ce que ça va donner dans la plus grande compétition européenne la saison prochaine.
En 30 secondes, Daniele, est-ce que Nico Pass sera encore un joueur de Com la saison prochaine?
Fabregas, il se plaint que Zanetti envoie des messages à Nico Paz pour lui dire d'aller à l'Inter. J'imagine pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à Madrid. Ça dépend de Madrid, en fait. Ça dépend du prochain entraîneur de Madrid, si c'est Mourinho, du prochain président de Madrid, si c'est Florentino Pérez. Ça dépend aussi un peu de Nico Paz, parce que là, rester à Com, jouer la Champions League des protagonistes, c'est quand même intéressant. Plutôt qu'aller à Madrid et peut-être chauffer les bancs. Et... Donc moi, je pense que oui, je pense qu'il va rester.
Allez, on fait une petite pause dans l'After Italy. Dans un instant, on parle des grandes déceptions, des désillusions même de la saison en Serie A, la Juve et le Milan. À tout de suite. On est de retour dans l'After Italy, toujours avec Daniele Manoussia, avec Loïc Moreau. On fait le bilan, on tire le bilan de la saison de Serie A. On a parlé de Com et de la Roma qui se sont donc qualifiés pour la Ligue des Champions aux dépens du Milan et de la Juve. Pour le Milan, c'est un véritable cataclysme parce que c'est la deuxième saison de suite que les Rossoneri ne joueront pas de Champions League. Et du coup, Et bien là, c'est branle-bas de combat. Le propriétaire, Lolo, il a décidé de mettre tout le monde dehors, ou presque.
Ouais, non mais là, comme tu dis, en fait, c'était tellement inattendu, cette défaite à domicile face à Cagliari lors de la dernière journée. On voyait que Milan avait du mal en cette fin de championnat, mais personne n'osait imaginer que ce serait aussi catastrophique et qu'il louperait la finale de Champions. Alors forcément, sous le coup de l'émotion, Jerry Cardinal, qui est le propriétaire de Redbird et de l'AC Milan, il a décidé de faire table rase. Et effectivement, il y a 4 têtes qui sont tombées donc au lendemain de cette non-qualification, et pas des petites têtes, hein, on va dire les grosses têtes des Rossoneri, Giorgio Forlani, l'administrateur délégué, Igli Taré, le directeur sportif qui était là que depuis l'été dernier, le français Geoffrey Moncada qui était directeur technique, et l'entraîneur Max Allegri. Tous les 4 ont été virés. Alors ça a coûté une petite somme d'argent, hein, quand même 22 millions d'euros à l'AC Milan, du côté de Jerry Cardinal, on a décidé vraiment de faire table rase de cette saison qui est catastrophique pour les Rossoneri.
Alors à quoi va ressembler le futur organigramme du coup, Daniele, du Milan? Qui va prendre la suite et quel sera le rôle d'un certain Zlatan Ibrahimovic qui, on rappelle, lui est le conseiller spécial du propriétaire?
Voilà, pour le moment c'est facile, il suffit de mettre la photo de Zlatan. Mais alors, sur Zlatan, il y a un doute. Est-ce que c'est un conseiller ou c'est aussi un investisseur? Parce que c'est ce qu'on dit en Italie, c'est que si Zlatan il est resté, c'est parce que on sait qu'il a des...
Il
a investi des fonds de Redbird, mais combien? Parce que alors là, on a les deux rôles, non? Il est employé, mais en même temps, au conseiller, donc il prend un salaire, a priori, mais il a aussi quelqu'un qui investit son argent, donc il a le droit de s'énerver contre le directeur sportif, contre l'entraîneur. C'est des rumeurs, mais les dernières semaines, ils nous ont dit sur les quotidiens qu'Ibrahimovic, il a envoyé lui aussi des textos à ses propres joueurs pour leur dire de ne pas suivre ce que Allegri leur disait, qu'ils se sont disputés dans un restaurant sur une question à la con du 3e gardien de la prochaine saison. Donc, ils ne s'aimaient pas. Donc, Taré et Allegri, ils sont partis pour Ibrahimovic. Pour le moment, ils parlent de Ragnik. C'est un peu un homme qui sort quand le Milan...
L'actuel sélectionneur de l'Autriche. Ragnik. Donc, qui pourrait arriver dans quel rôle? Directeur sportif?
De tout. Lui, s'il vient, c'est pour rebâtir les équipes des jeunes, la philosophie de l'équipe. Moi, j'aimerais bien ça, parce que c'est un type de changement qui demande du courage. C'est pour ça que je n'y crois pas. Parce qu'en Italie, on n'a pas de courage, normalement. On a parlé, dès qu'ils ont viré Allegri, on a parlé des Iraola. Et moi, je disais, ah bon, ils sont forts. S'ils arrivent à prendre Iraola, un des meilleurs coachs de l'année, que tout le monde peut-être veut, ils sont forts. Et en fait, c'était bidon, c'était pas vrai. C'était un homme sorti comme ça. Moi, je pense qu'ils vont, ça va finir sur un homme un peu, vous savez, non, on recycle beaucoup en Italie. On va recycler un homme d'un autre entraîneur italien. Et aujourd'hui, il y a Italiano qui s'est libéré, par exemple, de Bologne. Ça pourrait être un entraîneur comme Italiano avec un directeur sportif comme Tony D'Amico, dont il a parlé Loïc, s'il n'est pas à la Roma.
Bon, on avait dressé une autre liste avec d'autres noms aussi, hein, Lolo. Hein. On va peut-être les découvrir, même si bon, on a mis dedans Mario Silva, mais a priori, lui, c'est plutôt Marco Silva, pardon, c'est plutôt pour aller à Benfica.
Après, encore une fois, c'est comme en Italie, dès que la période des transferts ouvre, voilà, c'est la foire au nom. Et Daniel, elle disait, Andoni Iraola, visiblement, c'est Crystal Palace, donc il va rester en première ligue. Qui dit Crystal Palace dit Oliver Glasner, qui a annoncé son départ, donc déjà il y a quelques mois, et qui vient de terminer sur une victoire en Conference League. Donc après, effectivement, il y a eu Marco Silva, il y a Xavi, il y a Thiago Motta aussi qui a été annoncé. Mais c'est pareil, dans les directeurs sportifs, on a eu tous les noms. On a eu Chiqui Begiristein qui était l'ancien de Manchester City. Donc pour l'instant, c'est vrai que le flou est le plus total. Si Rangnick vient, la condition, c'est qu'il puisse choisir un peu tout le monde. Hein, c'est-à-dire que ce soit lui qui fasse le casting. Mais ce qui est quand même un petit peu improbable, je trouve, c'est qu'on a un club qui est en pleine restructuration et qui a besoin de se restructurer. Et que tu as le conseiller Zlatan Ibrahimovic qui va devenir consultant pendant la Coupe du Monde pour la Fox Sports, je crois, et Rangnick, qui est le potentiel, donc nouvel homme fort, qui sera à la tête de la sélection d'Autriche. Donc c'est dire à quel point le club est géré avec les pieds.
Tu dirais que c'est effectivement un club qui est mal géré aujourd'hui, Daniele?
Je pense que les résultats ils parlent tout seuls. Il faut rappeler, peut-être il y a des auditeurs qui ne se rappellent pas, mais l'origine du mal de l'AC Milan, c'est la chassée des Maldini. C'est ça qu'ils ont encore en train, les supporters, de reprocher à leurs dirigeants. Une légende qui avait bien fait, qui a mené le Milan à gagner le Scudetto en 2000, je ne me souviens plus, 21-22, et qui a été chassé par des rapports de force, par des bras de fer, avec justement Ibrahimovic déjà et Furlani, Cardinale qui vient de dire que Maldini, oui, il y a deux jours dans le Corriere della Sera, si je ne me trompe pas, il a dit oui, Maldini, il est bon, mais c'est un one-man show. Et tu ne peux pas parler comme ça des légendes de Milan, même dans ces moments où les supporters veulent même ta tête. Là, Cardinal et Gaume, ce n'est pas comme s'ils n'ont pas contre Redbird. Il fallait faire un peu plus d'attention. Le fait qu'ils n'ont pas d'attention même dans la communication, mais penser qu'ils n'ont pas encore compris où ils sont, comment il faut gérer le football italien. De toute façon, il n'y a qu'une idée, il faut des enfants. Aujourd'hui, il a dit dans un interview à Fox Sports que lui, il est dur, il a même fait pleurer ses coéquipiers, comme si c'était une chose positive. Donc voilà, on va chercher un entraîneur qui fait pleurer ses joueurs et peut-être les choses vont s'améliorer, ou peut-être pas. Je sais pas.
Bon. On a hâte de voir la suite. En tout cas, au Milan, il va se passer encore plein de choses. Cet été, l'autre désillusion de cette saison en Serie A, c'est bien sûr la Juventus, qui elle aussi visait la Champions, et malgré d'ailleurs des investissements lourds, parce que la Juventus, elle aussi, avait dépensé beaucoup d'argent pour arriver à ses fins depuis maintenant quelques années, et ça n'a pas marché.
Ouais, depuis 2020, depuis le dernier titre conquis avec Maurizio Sarri, effectivement, la Juve n'y arrive plus hein, en Serie A, et pourtant, si on regarde le nombre de dépenses depuis 2020, donc sur les six dernières saisons, on est à 871 millions d'euros qui ont été dépensés. C'est évidemment la somme la plus importante en Serie A sur la période. La balance, là aussi, des transferts négatifs de 309 millions, c'est la plus importante. Donc, il y a, comme on le dit souvent aussi dans le podcast, il y a de l'argent en Italie. C'est juste qu'on l'a vu, comme ils en ont, ils le dépensent bien. Il y a d'autres clubs comme Milan et surtout la Juventus qui le dépensent mal. Et le problème après, c'est quand ça a une influence sur le sportif, bah, ça a des conséquences assez désastreuses, puisque Damien Comoli, donc l'administrateur délégué de la Juventus, a dit à cause de cette non-qualification, il va falloir qu'on vende un joueur en plus.
En revanche, la grosse différence avec le Milan d'Agnelli, c'est que contrairement aux Rossoneri, les Bianconeri, eux, ont décidé de faire confiance aux équipes techniques et sportives en place.
Pour le moment. Il faut ajouter parce qu'on ne sait jamais. Mais oui, mais c'est aussi différent les deux manières dans lesquelles elles ne se sont pas qualifiées. La Juventus, elle est très mal partie. Elle a mal débuté les championnats. Elle a dû changer son entraîneur. Avec Spalletti, on a vu du bien. On a vu la Juventus jouer un bon football. Peut-être un des meilleurs avec l'Inter, le Com, et c'est tout, parce qu'en Italie, il n'y a pas beaucoup d'autres équipes qui ont joué à un très bon football, et Sassuolo peut-être. Mais après, on a vu aussi une équipe qui a beaucoup de carences sur le point de la leadership, ou de certains rôles en particulier, les numéros 9. Et ça, c'est aussi pour les mauvaises décisions de Comoyer. Par exemple, il y a Openda, que c'est un joueur qu'il est. On ne se rappelle presque plus qu'il a déjà joué tout. Ça fait un mois et demi qu'il ne doit plus rentrer en jeu, que la Juventus, elle a payé 40 millions. C'est un joueur de la Juventus, payé 40 millions en bilan. Et donc, pour le vendre, il faudrait le vendre au moins un peu plus de 40 millions, ou un peu moins parce qu'il y a des amortements. Mais ça ne va pas être facile. Jonathan David, Zegrova, c'est tous des joueurs. Coupe Mainers, c'est des joueurs aux marges de l'idée des Spalletti. Donc, il va falloir bâtir et se libérer, faire du nettoyage. Ça ne va pas être simple. Comme on dit, il n'est pas trop aimé. Il n'est pas trop aimé par la presse, il n'est pas trop aimé par les supporters, parce qu'il a dit, moi, je suis un homme des numéros, moi, je regarde les numéros, les statistiques. En Italie, on est anti-intellectuel sur toute la ligne, partout, n'importe qui, presque. Donc, il ne s'est pas bien présenté. Et donc, on va voir, ça ne va pas bien commencer. Mais il faut dire, moi, je pense que la Juventus, elle était malchanceuse. C'est vrai, c'est une déception.
Pourquoi tu dis qu'elle est malchanceuse, la Juventus?
Ben, elle a eu dans des matchs, elle a eu beaucoup de matchs où ce qui pouvait aller mal, ça s'est mal passé. Et si changer vraiment en détail, lorsque Milan, ils ont fait 10 points dans les derniers 10 matchs, ça, c'est pas malchance. Quelque chose s'est cassé dedans toi, t'as brisé ton corps pour quelque chose. La Juventus, non, c'était vraiment, des fois c'était un poteau, un pénalty raté, la passe ratée de Bremer contre le Verona. Elle est vraiment passée à peu de choses de pouvoir être l'équipe en deuxième, troisième place. Mais après, ça a des conséquences aussi sur Spalletti qu'on a vu très, très, très nerveux à la fin de la saison.
Bon, ça va être quand même très intéressant de voir si Comolli et Spalletti peuvent continuer à travailler ensemble. Visiblement, les relations sont meilleures que ce que veut bien dire la presse italienne. D'un point de vue de l'effectif, qu'est-ce qu'on sait déjà, par exemple, du sort de Vlahovic? Il est en fin de contrat. La Juve aimerait le prolonger, c'est ça?
Je pense que c'est, oui, je pense qu'il voudrait le prolonger parce que c'est difficile de trouver un autre joueur qui va payer moins. C'est une question économique à ce point-là. Peut-être c'est mieux de renouveler Vlahovic à la moitié de son salaire, parce que là, c'est le joueur le plus cher du championnat, 12 millions, un truc comme ça. Je pense qu'on part des 6 millions. C'est quand même énorme. Moi, je trouve que c'est énorme. Mais c'est vrai aussi qu'il a marqué 2 buts dans les derniers matchs. Il faudrait être dans la tête des Spalletti, franchement, pour le savoir. Mais moi, je changerais la moitié de l'équipe. Mais on ne peut pas changer la moitié de l'équipe chaque saison.
Bon, je pense que l'intersaison va quand même être passionnante en Italie. Ça va beaucoup bouger sur les bancs, au niveau des directions sportives, dans les effectifs également. Et évidemment, on en parlera tout l'été dans l'After, même si c'était la dernière de l'After Italie cette saison. Merci beaucoup, Daniele. Merci, Lolo. On se retrouve évidemment pour l'année prochaine, à la saison prochaine. Il y a une Coupe du Monde qui arrive. Bon, Daniele sera en vacances.
Enfin, oui, pas pour Daniele, mais bon, ça c'est...
Je crois qu'il va travailler quand même. Peut-être qu'il pourra donner son avis sur des joueurs qui évoluent en Serie A.
Peut-être qu'il pourra acheter un ventilateur qui fonctionne aussi.
Moi, j'ai la double nationalité, donc je vais supporter la France.
Ouais, c'est trop facile, ça.
Bon choix, Daniele.
C'est trop facile.
Merci beaucoup. L'After Italy disponible évidemment en podcast et on se dit à très vite. Ciao.
RMC After Italy.